Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Nations Unies vont mettre en place un pont aérien avec la République Dominicaine pour aider Haïti. Les précisions dans une minute.
Retour sur la polémique à Sciences Po Paris après une mobilisation pro-palestinienne. Une étudiante juive témoigne dans ce journal. Elle dit se sentir stigmatisée au sein de la grande école.
Comment analyser les récentes cyberattaques dans l'Hexagone après des ministères? On apprend que France Travail a aussi été visée. Le chaos est tel en Haïti que les Nations Unies annoncent l'organisation d'un pont aérien entre le pays et la République dominicaine. Haïti souffre de la violence des gangs qui contrôlent des pans entiers du territoire. Le premier ministre haïtien a démissionné il y a quelques jours et depuis le pays attend la formation d'un conseil présidentiel de transition destiné à rétablir un minimum de stabilité. D'ici là, l'ONU va donc tenter d'y acheminer de l'aide. À New York, Loïc Loury. Loïc Loury, à New York.
Les Nations Unies travaillent à mettre en place un pont aérien avec la République Dominicaine pour la fluidité de l'aide et les mouvements de leur personnel. C'est ce qu'annonçait hier la mission de l'ONU présente en Haïti. Évidemment, reconnaît le porte-parole de l'organisation, la situation politique reste un peu floue alors que le plan de transition semble menacé. Face à la situation, l'ONU précise qu'une partie de ses employés serait évacuée et réinstallée à l'extérieur du pays, tandis qu'une équipe dite de crise y est attendue. Lundi, c'est l'Union européenne qui avait déclaré avoir relocalisé son personnel, la France ordonnant à ses employés non essentiels de quitter la capitale et Washington y envoyant des Marines pour protéger son ambassade. Le Kenya enfin a lui suspendu le déploiement d'un millier de policiers dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU en attendant l'installation d'un hypothétique conseil présidentiel de transition.
Israël doit faire de la protection des civils et de l'aide humanitaire à Gaza sa priorité. Numéro 1, a déclaré hier Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. L'ONU craint dans l'enclave palestinienne une famine généralisée. Par ailleurs, un premier bateau de l'ONG espagnole Open Arms est chargé de 200 tonnes de vivres progresse lentement vers Gaza. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, invité d'honneur de la première édition du Power Earth Summit à Paris. Un sommet qui entend fédérer les acteurs et les actrices de la transition énergétique. Il s'agit notamment de promouvoir le développement des énergies propres et renouvelables. L'événement, qui dure 2 jours, a donc été inauguré hier soir par Barack Obama. Il a longuement parlé de son action, notamment dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique lors de son passage à la Maison-Blanche. Nathanaël Charbonnier y était.
Ladies and gentlemen, President Barack Obama. Obama n'est plus président, mais à première vue, cela ne se voit pas lorsqu'il entre sur scène.
Merci beaucoup, thank you so much.
Certes, les cheveux sont un peu plus gris, la démarche légèrement plus lente, mais l'animal politique est toujours là, prêt à bondir. Notamment lorsqu'il s'agit des gratiniers Trump, qu'il ne cite jamais, mais qu'il accuse de récupérer les oubliés de la transition écologique, ou lorsqu'il salue le travail de Joe Biden, qui a su reprendre le flambeau de la défense de l'environnement. Mais Obama sait aussi, à coup d'anecdote, s'habiller en héros, car c'est lui qui, bien avant l'accord de Paris, avait dès 2009, au terme d'une partie de cache-cache dans les couloirs du palais des congrès de Copenhague, réussi à rassembler Chinois et Indiens autour de la table pour les amener à négocier sur le climat. Reste toutefois le plus important aujourd'hui. Et c'est le travail que mène sa fondation. La formation des jeunes qui devront relever le défi pour sauver notre planète, car tout le monde n'ira pas vivre sur Mars ou sur la Lune. Obama, qui avant de se lever, veut positiver, en expliquant que oui, la planète va se réchauffer, mais que chaque dixième de degré gagné permettra de sauver des milliers de vies.
Nathanaël Charbonnier.
6h34 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. À Sciences Po, une ligne rouge a été franchie, a regretté hier la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau.
Le président Emmanuel Macron a lui dénoncé des propos inqualifiables et parfaitement intolérables, rapportés lors d'une mobilisation pro-palestinienne la veille dans la grande école parisienne. Une étudiante se serait vue refuser l'entrée d'un amphithéâtre, ne la laissait pas rentrer. C'est une sioniste, voilà les propos dénoncés par l'Union des étudiants juifs de France. Salomé, étudiante à Sciences Po, qui préfère ne pas donner son nom de famille, fait partie de l'UEJF et elle se sent stigmatisée au sein de l'école.
À Sciences Po, souvent, c'est des remarques qui, sous couvert d'antisionisme, sont teintées d'antisémitisme. D'autres, ce sont de l'intimidation ou parfois une ostracisation en fait qui est claire. Par exemple, bon, ça c'est un cas qui m'arrive à moi, mais les gens veulent pas nécessairement travailler avec nous, les exposer en groupe. Les gens sont plutôt réticents à lever la main pour faire le même sujet que nous. Lorsqu'on est en amphithéâtre, la rangée est plutôt vide. Donc voilà, il y a quand même une ostracisation qui est assez claire des étudiants. Ce qui s'est passé mardi, c'est peut-être le point culminant en fait de mois d'inconfort pour les étudiants juifs, je pense. Depuis le 7 octobre, il y a un mal-être énorme qui est ressenti par les étudiants. Cette ostracisation, cette mise de côté, ou même un mal-être en fait intérieur, du mal à continuer les études et tout ça, une essentialisation en fait des étudiants pour leur appartenance religieuse, qui est extrêmement grave. On représente d'autres choses que juste notre judéité en fait.
Témoignage recueilli par Mercia Nezik. Et le gouvernement va saisir la justice via l'article 40 de la procédure pénale pour contribuer à l'enquête. Sciences Po qui enchaîne les crises. Son directeur Mathias Vichra a annoncé hier matin sa démission après avoir appris son renvoi devant un tribunal. Il avait été entendu en décembre dans une affaire de violence conjugale. Lui et son ex-compagne s'accusent réciproquement de violence. Gabriel Attal réaffirme sa volonté sur les groupes de niveau pour l'enseignement des maths et du français en 6e et 5e l'an prochain. Groupe contesté par de nombreux enseignants, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, avait pourtant annoncé la semaine dernière une certaine souplesse dans leur mise en place et préférait parler de groupe de besoin. La règle, c'est le groupe et l'exception très encadrée, c'est la classe, a clarifié hier Gabriel Attal à l'AFP. Une cyberattaque de plus contre un organisme public. Cette fois, c'est France Travail qui a été visée avec un risque de divulgation de données personnelles touchant potentiellement 43 millions de personnes. L'attaque qui a également concerné Cap Emploi en charge de la recherche d'emploi des personnes handicapées n'est a priori pas du tout en lien avec celle qui a ciblé récemment plusieurs ministères. Auteur, enseignant à l'école de guerre économique et conseiller sur les questions de cybersécurité pour le cabinet PwC, Guy-Philippe Goldstein recommande la prudence dans l'analyse de ces cyberattaques qui se multiplient. Et il distingue lui aussi les deux dernières.
On peut tout envisager, mais, et je souligne le mais, il faudra d'abord voir les éléments d'investigation, en particulier sur l'attaque contre France Travail. Je le dis parce qu'elle est d'une nature différente de celle contre les différents ministères avec Amine Soudan. France Travail est une fuite de données qui peut être relativement sophistiquée, plus ou moins sophistiquée. Amine Soudan contre les ministères, ça on envoie des paquets de messages Internet pour faire tomber les serveurs, et c'est pas extrêmement sophistiqué. L'un peut avoir des raisons strictement crapuleuses, ce qui s'est passé pour France Travail. L'autre, très clairement, c'est pour des raisons politiques, d'autant plus clair qu'Anonymous Soudan est lié à un groupe russe qui s'appelle Killnet, qui a déjà opéré de cette façon-là, par exemple, pour casser le rapprochement de la Suède dans l'OTAN. Vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux diplomatiques. Alors que là, sur l'histoire de France Travail, à nouveau, ça pourrait être crapuleux. Et je le dis d'autant plus qu'apparemment, ces attaques, donc cette fuite de données, a démarré dès le 6 février. Donc on est bien avant les déclarations récentes du président Macron, qui date du 26 février, sur l'éventuelle possibilité de troupes d'instructeurs, on va dire, au sol en Ukraine. Donc il y a toujours un potentiel, mais en même temps, on ne va pas accorder le point à nos adversaires s'ils ne sont pas réellement derrière l'attaque de France Travail.
Le spécialiste des questions de cybersécurité, Guy-Philippe Goldstein, il répondait à Éric Chavroux. La journée sera douce, lumineuse sur la majeure partie du pays, prévoit Météo France, mais voilé et pluvieux, ciel voilé et pluvieux sur la Bretagne. 17 degrés cet après-midi à Lille et Strasbourg, 18 à Paris, 19 à Lyon, jusqu'à 20 degrés à Tarbes.